9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous. Saison 2, épisode 17 de votre club de l'été. Il y a des musiques qui nous émeuvent plus que d'autres, certaines qui nous font vibrer, danser. Parfois, il s'agit de quelques notes soufflées ou frappées. À chacun sa musique intérieure et à chacun la bande-son de sa vie qui nous emporte en 3 ou 4 mesures seulement. Cette émission sera musicale et transculturelle. 2 heures en direct au cours desquelles seront prononcés les mots trompette, frontière, héritage, cinéma, futur ou encore goût. Eux, ils sont immuables et intangibles. Lispressac, expert tourisme et culture, et Olivier Pouls, expert gastronomie. Salut les amis.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va très bien, d'autant que vous avez fait vos devoirs, voilà. Tout va bien.
Racontez aux auditeurs ce que c'est que mes devoirs le soir quand je rentre.
Eh bien, vous avez cuisiné, on goûtera ça tout à l'heure.
Et voilà, je n'avais que
des
ça à
faire. Mes devoirs de cuisine.
Si ma mère nous entend, franchement. Lise, notre invitée, est née au Liban, sa région de cœur est située dans l'Essonne, à Étampes. Vous nous emmenez où exactement ce matin?
Dans un parc naturel régional, pas très loin des temps, vous verrez.
Voilà, on reste en France. Olivier, la gastronomie libanaise est assez riche pour qu'on y consacre une partie de l'émission. Pour
bien
pas dire
sûr,
toute l'émission.
Bien
hein,
sûr, je vous emmène au Liban, mais au Liban à Paris.
Au Liban à Paris, c'est pas mal.
Mais vous verrez, c'est pas mal quand même.
Mais je pense qu'il y aura en plus 2-3 petits trucs à grignoter. Vous nous délivrerez également une recette de tapas en fin d'émission.
Puis vous m'aiderez à la délivrer puisque vous avez travaillé.
Et bah oui, puisque j'ai encore bossé. Puis
Olivier
ne
bosse plus en fait.
C'est la fin de saison, c'est fini. Puis vous allez nous expliquer également à quoi correspondent les goûts, on y reviendra avec Hervétis. Nous avons 2 heures pour évoquer ces sujets et voyager grâce à la musique de notre invité. Vous êtes les bienvenus dans ce club de l'été. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lispressac et Olivier Pouls, notre invité, compositeur, trompettiste, un son reconnaissable, un souffle qui fait vibrer la planète musique depuis 20 ans. Cher invité, après avoir longuement, mais très longuement hésité, voici les quelques sons que nous avons sélectionnés pour raconter une infime partie de votre parcours.
Chacun d'entre nous, quand il voit certaines choses, il se dit « Ah, il aurait fallu ceci ou cela. Bon. » Mais je pense que nous sommes arrivés à une situation où il n'y a plus de solution simple. I got caught in the storm.
Jamais. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Ibrahim Malouf, le 27 septembre sortira votre 11e album studio baptisé Sens avec un 3 à la place du E. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous serez à l'Olympia du 23 au 25 septembre et en tournée jusqu'en 2020 avec ce projet. D'autres concerts sont prévus, notamment les 14 et 15 décembre à la scène musicale autour d'un de vos albums intitulé Kaltoum. On va évidemment revenir sur toute cette actualité, mais avant cela, quels sons ont repéré vos oreilles à travers ce mini portrait?
À tous. Merci, hein, c'est trop bien ce genre de portrait. Génial, parce qu'il y a pas tellement, il y a pas de mots et puis ça parle tout seul. Tout de Lassa, Jackson, à mon oncle, Amine, à Oum Kulthoum, à Miles.
Alors on reprend dans l'ordre. Donc, on a entendu Michael Jackson, Bad. Vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi?
Parce que comme plusieurs millions, voire centaines de millions de personnes dans le monde, j'étais inspiré par la musique de Michael parce qu'il y a beaucoup de rythmes. Ça s'est inspiré de tout, d'Afrique, de pop, de jazz, de rock, de tout. Et donc c'était forcément très très inspirant quand t'es jeune, avec la danse, avec tout.
Voilà. On a entendu Dans les forêts de Sibérie, pour un film pour lequel vous avez fait la bande originale et pour lequel vous avez eu le César en 2017. Magnifique musique.
Merci.
Combien de bandes originales vous avez fait? Une dizaine, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, si je ne compte pas les courts-métrages, etc.
Ouais, peut-être une douzaine, un truc comme ça.
On a également entendu Amin Maalouf, votre oncle. Mmh. Lise Pressac, ici présente, a quand même fait son devoir, son mémoire de maîtrise sur votre oncle.
Ah, ouais. En partie,
En partie.
C'était les représentations de l'Orient dans les échelles du Levant d'Amin Maalouf et deux autres bouquins d'auteurs turcs.
On peut en avoir un petit résumé là.
Pas le temps. On va y venir. Absolument pas de revenir. On a entendu la voix de deux femmes qui ont compté pour vous, Lassa. Extraordinaire chanteuse. Moi, à chaque fois que je l'écoute, j'en ai les larmes aux yeux.
Ah bah c'est peut-être la première personne qui m'a donné une place dans le monde de la musique, autre que la musique classique dans laquelle je baignais depuis longtemps. C'est Lassa. Voilà.
Comment vous l'avez rencontrée, Lassa ?
Et grâce à un musicien que j'adore, qui s'appelle Vincent Segal, un violoncelliste français, qui est un peu un touche-à-tout, qui était un peu une sorte de pas de tuteur, mais une sorte d'exemple pour moi quand je suis arrivé à Paris. Et qui a plus ou moins eu un parcours assez similaire au mien, c'est-à-dire qu'il venait de la musique classique, mais était ouvert à toutes les musiques sans frontières, du hip-hop aux musiques indiennes, aux musiques du Brésil, à la musique au jazz, etc. Et donc, quand j'ai fait connaissance avec Vincent, c'était la période où lui rencontrait Lassa, et donc il nous a présenté, et après Lassa m'a pris sous son aile.
Écoutez, Lassa, sincèrement, c'est absolument magnifique. On a entendu la voix d'une autre femme qui a compté aussi, c'est Oum Kalthoum. Alors, je ne sais pas si vous dites Kalthoum ou Kalsoum, j'ai entendu les deux prononciations. Moi, j'ai toujours dit Kalthoum, voilà. Très, très grande chanteuse égyptienne, une star à qui vous avez consacré un album.
Mais oui, et au-delà même d'être une star ou la plus grande chanteuse, c'est surtout devenu une icône et un symbole du peuple arabe uni. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire, à l'époque d'ailleurs où je faisais la promo de l'album Kalthoum, c'était il y a 4 ans maintenant, je parlais souvent je donnais cet exemple, je disais que c'était peut-être la seule fois dans l'histoire où vraiment tout le peuple arabe dans son ensemble était d'accord sur quelque chose, sur quelqu'un en l'occurrence. Et donc voilà.
Elle est incroyable. Et puis on a entendu un tout petit extrait de votre concert à Bercy, c'était décembre 2016. Vous fêtiez vos 10 ans de scène, en fait.
De concert.
Un concert, mais incroyable. Combien de personnes ? 20 000 personnes devant vous ?
Ouais, on devait être entre 18 et 20, je ne sais plus. Je me rappelle.
Et c'était une énergie dingue. On va évidemment en reparler. Et puis, on a entendu Miles Davis, pour finir ce portrait, l'album Kind of Blue, qui va fêter, lui, ses 60 ans. Ça sera le 17 août 1949. Magnifique album dont j'espère on pourra en dire encore deux mots. Juste une question avant d'entendre un premier extrait de votre album, Ibrahim Maalouf.
49 ou 59 du coup ?
Il est sorti en 49.
70 ans alors.
Non, c'est moi qui me trompe. J'ai un gros problème avec les chiffres. Attendez,
j'ai fait des maths quand même. Vous avez fait une maîtrise sur Ami, moi j'ai fait des
maths. Voilà. Ouais,
et Eva n'a pas fait Mathieu Pinceau.
Ah ouais, non, mais. Et Olivier expliquait que j'ai un problème avec les chiffres. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de pas me tromper.
Mais attendez, mais je vous jette pas la pierre parce que je devrais le savoir, moi, quand même, l'anniversaire de cet album.
Mais j'étais persuadée que c'était.
Il est 59.
C'est moi qui me suis trompée en écrivant. Je savais que c'était les 60 ans.
Non, mais
j'étais sûre que c'était les 60 ans. Je me souvenais plus de la date. 11 albums studio, est-ce que j'ai bon jusque-là.
Oui.
Donc une douzaine de bandes originales de films, on va dire. J'ai pas compté les courts-métrages, ni les multiples collaborations avec d'autres artistes français, parce que justement, et étrangers, comme j'ai un problème pour compter, au bout d'un moment, mes doigts me suffisaient plus. Juste une question, pourquoi cette hyperactivité ? C'est une nécessité pour vous, un besoin vital, peut-être une façon d'échapper à la réalité ?
Je me pose quand même de temps en temps la question, parce qu'on me fait souvent la remarque, alors que pour moi, c'était normal. Et je crois que le résultat de ma réflexion, c'est que je suis né dans une... en fait, je crois que plus on prend de l'âge et plus on se pose des questions sur sa naissance et sur les débuts, en fait. Alors qu'avant, je me posais jamais la question. Quand j'avais 18 ans, je bossais comme un dingue. Je préparais les concours du conservatoire, etc. Et en fait, je me suis jamais posé la question. Et là, maintenant, je me rapproche de la quarantaine, je commence à réaliser. Ça vient peut-être, je pense, du moment de ma naissance et du contexte dans lequel j'ai grandi, qui était un contexte d'urgence. J'en parle jamais parce que c'est pas forcément quelque chose de glorieux, mais... Je suis né dans un hôpital qui se faisait bombarder au moment de l'accouchement.
À Beyrouth. Mmh.
Voilà, mais les cousins de ma mère sont venus nous chercher sous les bombes pour qu'on échappe aux bombardements. Et je sais que cette urgence-là, je l'ai vécue toute mon enfance, c'est-à-dire même encore aujourd'hui. Ma mère, si je traverse, me dit « tu regardes bien à droite et à gauche ». Tous les soirs, elle me demande de lui envoyer un texto quand j'arrive à la maison pour être sûr que tout va bien, etc. Il y a une sorte d'urgence dans laquelle on a grandi. C'est quelque chose qui est complètement anachronique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça, on n'est plus dans ce stress-là. Et c'est décalé par rapport à l'époque dans laquelle on est et tout ça, mais finalement c'est resté et je pense que c'est lié entre autres à ça. Il n'y a certainement pas que ça, il y a aussi mon éducation et tout ça, mais je pense que cette urgence-là, elle est là. Il faut surtout faire plein de choses parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter.
Alors je comprends peut-être aussi autre chose, c'est l'énergie que vous mettez à la fois dans votre musique et dans les concerts. On va en reparler. Et on voulait faire déjà un premier cadeau aux auditeurs. Vous avez dévoilé un premier extrait de votre album aux sonorités très cubaines. Le morceau s'appelle Happy Face. Et il rend heureux ce morceau. Je vous propose de l'écouter, Ibrahim Malouf, sur Europe 1. Happy Face, extrait du prochain album d'Ibrahim Malouf, attendu le 27 septembre et intitulé Sens. Et avec lui, nous poursuivons dans un instant cette émission sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1,
9h-11h,
Eva Rock.
Et il est 9h26, nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invité du jour est le musicien Ibrahim Malouf. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages évidemment et vos questions. Ibrahim Malouf, alors petite question au passage, vous jouez combien d'instruments, Ibrahim? Parce qu'on parle toujours de la trompette, mais je vous ai déjà vu au piano, au moins.
Ouais.
Et après?
Ouais, en fait, vraiment par humilité, je préfère... vous dire que ça, mais après il y a certainement plein d'autres choses comme ça, mais je touche shot, je sais pas comment on fait,
touche shot, c'est pas mal,
mais je suis Voilà, mais sinon, non, je préfère pas.
Alors, vous l'avez souvent raconté, cette trompette, c'est plus qu'un outil de travail, c'est le fruit d'un héritage, puisque c'est votre papa qui l'a transformé. Une trompette d'habitude à trois pistons, il en a rajouté un quatrième pour avoir cette sonorité orientale. Est-ce que vous jouez avec toujours la même trompette depuis des années, ou vous changez d'instrument ?
Non, je joue avec la même trompette, mais par contre, il y a un moment où, contrairement par exemple au violon ou au violoncelle, qui prennent de la valeur avec l'âge et avec le temps, le cuivre s'abîme avec le temps, en fait. Et donc, il y a un moment où l'instrument a perdu ses fréquences, a perdu sa sonorité. Et donc, j'ai changé. Par exemple, la dernière fois que j'ai changé, c'était il y a 5-6 ans. Avant, j'avais la même trompette peut-être pendant 15 ans.
Et alors, à chaque fois, c'est votre papa qui la transforme, la trompette ? Ou aujourd'hui, il y en a qui sont, qui sont fabriqués depuis l'invention de votre père ?
C'est pas fabriqué comme les autres instruments, de manière en série ou quoi. Mais par contre, il y a des gens qui maintenant savent le faire depuis le temps. Et qui le font très très bien. Voilà, il n'y a plus besoin d'attendre que ce soit mon papa.
Mais alors, quand vous allez au conservatoire, vous dites je veux prendre des cours de trompette 3 pistons ou 4 pistons. C'est une discipline à part entière.
Non. Il n'y a que mon papa, qui faisait ça. Non, mais par contre, il m'a donné. Moi, dès que j'ai commencé à jouer de la trompette, quand j'avais 7 ans et demi, la trompette qu'il m'a donnée à ce moment-là, que j'avais dans les mains, était une trompette avec ce quatrième piston. Et donc, du coup, moi, si vous me donnez une trompette normale, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, c'est un truc qui n'est pas normal, quoi.
Oui.
et donc, du coup, dès le début, je me suis habitué à jouer avec la main gauche, parce que le quatrième piston se joue avec l'index de la main gauche. Et donc, j'ai fait tous mes concours d'entrée au conservatoire, mes sorties du conservatoire de Paris, les concours d'interprétation, concours classique, etc. Je les ai tous faits avec cette trompette-là. On me regardait toujours bizarrement en disant c'est quoi ce truc qu'il a dans les mains.
Voilà. Pour revenir à l'album, quel est le sens de ce 3 à la place du E dans le titre de l'opus qui s'appelle Sens ?
On a le droit de le dire. Est-ce qu'on peut prendre à peu près une demi-heure là-dessus ou comment on fait ? Non, c'est très très compliqué. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures, et vous imaginez bien qu'un titre d'album. J'imagine que les
artistes. Ça a un sens, c'est le cas de le dire.
Ça a beaucoup, beaucoup de sens, voilà, exactement. Et donc, du coup, j'aurais du mal à vous expliquer ça maintenant. Mais après, je peux vous raconter quelques anecdotes. Par exemple, je me suis rendu compte d'un truc, c'est comme un jeu. Si vous montrez ce mot S avec le 3, le N et le S à plein de gens différents, il y a des gens qui vont le lire sens.
Oui.
Automatiquement, qui vont dire, il y a écrit sens, mais c'est juste que le 3 il est à l'envers, mais il y a écrit sens. Et d'autres gens qui vont dire, mais c'est S3NS, ça veut dire quoi ? Et en fait, je me suis rendu compte que en fonction de la réaction qu'on avait, si on lit S3NS, en général, ce sont des gens qui sont assez pragmatiques et.
C'est étonnant,
qui ne sont pas forcément très poétiques dans leur manière de fonctionner, qui ne sont pas forcément dans l'empathie ou dans une sorte de résilience quotidienne, etc.
Nous, on a tous lu sens. Hein.
Oui, on a lu sens.
C'est parce que vous êtes tous plus ou moins des artistes et parce que vous êtes beaucoup en contact avec les autres, en fait. Et
peut-être.
C'est vrai, c'est pas une blague, vraiment.
Oui. Ah ouais.
Et les gens qui lisent sens malgré le 3 sont des gens qui ont cette capacité d'outrepasser les difficultés pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc imaginez là, par exemple, Eva, vous êtes en train de lire un texte qu'on vous a donné à lire très très rapidement. Vous voyez qu'il y a une erreur. Vous n'allez pas bloquer dessus, vous allez tracer, lire le mot, même s'il y a l'erreur. Et ben, tout le monde n'est pas comme ça. Et cet album parle, entre autres, de ce rapport qu'on entretient avec la facilité, avec la résilience, en fait, finalement.
Alors,
ça parle des peuples résilients, d'une certaine manière.
Et alors, il y a un morceau qui nous a particulièrement marqué avec Lise Pressac. Votre son et votre souffle, c'est votre identité, on le reconnaît. Dès que vous jouez, enfin, en tout cas, pour ma part, je sais que c'est vous qui jouez. J'aimerais juste qu'on écoute un extrait de All I Can Say et cette impression que votre trompette, elle pleure. On a dû l'écouter 10 ou 15 fois, le titre.
Moi, j'ai les larmes qui montent à chaque fois.
Non, c'est vrai. Est-ce que vous intellectualisez ça quand vous écrivez ce titre ? Est-ce que vous imaginez ce que les gens vont pouvoir ressentir ? Comment ça se passe ? Ou en fait, ça ne vous appartient plus du moment que vous le donnez à écouter ?
Je crois que ma manière de travailler a toujours été très spontanée et instinctive. Je réfléchis pas, je compose beaucoup, 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 beaucoup de choses et je ne garde que ce qui reste dans mon cœur, enfin, ce qui me touche vraiment. Est-ce que j'ai l'impression d'écouter sans trop m'enlacer. Finalement, dans cet album, il y a que 9 morceaux quand même, hein. C'est pas non plus énorme, mais c'est 9 morceaux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Du coup, ça va être le mot de l'interview, mais qui ont beaucoup, beaucoup de sens pour moi.
Et qui est le mot du club, pour tout vous dire.
Est-ce que vous écoutez vos albums ?
Non, sauf alors, je les joue en fait en live oui, quand ça sort, évidemment. Ouais. Donc, c'est pas que je les écoute pas.
En rentrant à la maison, vous dites pas tiens, je vais m'écouter un petit album.
Non, mais par contre, je peux vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte et j'y pense aussi de temps en temps à ça. C'est que je pense que j'oublie des trucs que j'ai fait parce que je fais tellement de musique. Que je pense que des fois, si on me fait écouter des choses, je dis ah ouais,
c'est bien,
j'avais
c'est
oublié. Que c'est non, je dirais pas c'est bien. Mais je dis ah c'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça. Ou par exemple, si vous me donnez un nom, un titre d'un des morceaux que j'ai fait, je peux vous dire je sais plus c'est lequel. Mais parce que j'en fais vraiment beaucoup et que c'est très, en fait, c'est toujours très spontané et instinctif et ça sort vraiment du cœur comme des cris à chaque fois. Et comme les cris, d'ailleurs, parfois on oublie, on nous dit ah mais t'as crié, ah bon j'ai crié. Moi, j'ai,
voilà. Ça vous est arrivé de rentrer dans un lieu public où vous entendez votre musique?
Oui, mais franchement, très très peu.
Oui.
Très peu parce que je passe très peu en radio. Enfin, là, c'est pas le bon moment pour dire ça. Mais je passe très 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 peu en radio, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant que j'ai un tout petit peu de notoriété finalement dans le milieu de la musique, malgré le fait de n'avoir jamais été en playlist, moi, dans ma vie, sur des radios généralistes, en fait.
Mais je sais pas si c'est l'heure des compliments, mais je pense que quand on vous a vu une fois en concert, on a envie de revenir à peu près à chaque concert que vous allez faire.
Ah c'est ma radio, alors.
Oui, mais je pense que c'est extrêmement important. Pour revenir sur l'album, vous avez embarqué avec vous pour cet album deux pianistes surdoués, Alfredo Rodriguez et Roberto Fonseca.
Et un troisième, c'est que ça va être
Lopez de ça. Et tout à fait. Comment se sont fait les rencontres? Je vous pose la question parce que c'est vrai que votre parcours est jalonné aussi de rencontres et de collaborations. En l'occurrence, avec ces musiciens cubains, comment ça s'est passé?
Mais avec Cuba, pourtant, je n'ai jamais mis les pieds à Cuba encore et j'ai un vrai projet pour y aller là en janvier. Mais j'ai rencontré énormément de musiciens sud-américains et particulièrement cubains pendant ma vie de musicien. Et je pense que c'est par hasard parce que les Cubains sont des musiciens extraordinaires et que la musique est partout. Il paraît dans les rues là-bas. Et
ouais, ils respirent musique. Hein.
Apparemment, c'est fou. C'est partout dans la culture, la musique. Et donc, j'ai rencontré énormément de musiciens, tous extrêmement talentueux à chaque fois, de IBI à El Comité, à tous les pianistes qu'on vient de citer, à plein d'autres artistes que j'ai pu croiser. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a un trompettiste cubain très connu quand même qui s'appelle Ibrahim Ferrer. Et donc, on a le même prénom et ça, d'une certaine manière, j'ai toujours été intrigué par... Comment est-ce qu'un Cubain pouvait s'appeler Ibrahim avec un prénom arabe? Et je me suis rendu compte qu'à Cuba, il y avait énormément en fait, de gens qui avaient des origines de partout dans le monde et donc des origines aussi arabes et tout ça. Et d'ailleurs, et là je fais des liens comme ça, je saute du coq à l'âne, mais en même temps c'est lié. Mais mon oncle, dans un de ses bouquins qui s'appelle Origine, raconte comment une partie de notre famille est allée vivre à Cuba. Et aujourd'hui, moi j'ai des cousins, des oncles et des cousins qui vivent à Cuba que j'ai jamais rencontrés. Et donc il y a un lien en fait qui existe depuis très très longtemps et qui se concrétise avec cet album.
Ibrahim Ferrer, que vous avez pu entendre avec le Buena Vista Social Club, puisqu'il y a participé. En amont de cette émission, Ibrahim Malouf, on vous a demandé quel était votre coup de cœur culturel. Et grâce à vous, on a découvert cette voix. So what have I got to lose? Nothing I could choose. Alors j'espère que j'ai bien prononcé son prénom. On dit Chéléa.
Chéléa
Frazière. Comment on va l'écouter? On a prévu de passer un morceau de son nouvel album. Comment vous avez découvert cette chanteuse?
Mais j'étais invité à participer à des concerts avec Quincy Jones.
Est-ce que vous pouvez juste deux secondes, je voudrais
qu'on s'arrête. J'ai vu des potes hier soir, on a été boire une bière.
Je veux bien que vous répétiez cette phrase, Ibrahim Malouf.
Je peux vous dire que j'ai beaucoup de bonheur à pouvoir la redire, si je peux le redire.
Je vous ai vu en photo avec Quincy Jones et j'avais juste envie de pleurer. Quoi.
Ouais, moi je suis un dingue de ce monsieur, de sa vie, de son parcours, de ses choix, de sa vision du jazz et de la musique. C'est tellement... On pourrait faire une émission rien que sur ça, mais... et donc j'ai eu la chance de le rencontrer et surtout en fait c'est même plus que ça puisqu'il m'a pris un peu sous son aile là, depuis quelques temps maintenant et je fais partie un peu des musiciens qu'il aime bien et qu'il invite régulièrement sur des événements et en fait j'ai croisé à l'occasion du concert notamment à Bercy. Là récemment j'ai joué deux fois avec lui, une fois pour le concert qu'il a fait à Bercy, une fois à Montreux, et Chéléa était là et je crois pourtant, je vais voir quand même beaucoup, beaucoup de concerts. Et dans ce style de musique-là, c'est la première fois que j'entends de ma vie en live une voix comme celle-là. Et je pense vraiment que c'est la prochaine je sais pas, Whitney Houston ou Mariah Carey. Ça, je pense vraiment que Shelley est la prochaine.
Et alors, quand vous entendez une telle voix, vous vous dites, il faut que je l'appelle pour faire un projet avec elle, ou pas du tout?
Et j'ai même dit plus que ça. Je lui ai dit, Shelley, moi, je voudrais vraiment, si je peux, en tout cas, avant que tout le monde se jette sur elle, parce que évidemment, tout le monde va se jeter sur elle. Je devrais même pas en parler sur Europe.
Oui, c'est vrai. Là, c'est,
moi, je vais l'appeler tout à l'heure. Par exemple.
Les maisons de disques vont aller tous se demander c'est qui c'est de là. Mais je lui ai proposé de lui produire son premier prochain album en France, en tout cas, au moins, et de l'aider à se faire connaître en France, parce qu'elle est juste dingue, cette chanteuse. C'est un truc de fou. En live, j'ai jamais entendu ça en live.
On va l'écouter tout à l'heure. Vous parliez des lives, justement. Moi, j'ai eu la chance d'assister à votre concert à Bercy, notamment. Ce qui n'est pas le cas de Lise, qui s'évanouit avant les concerts. Dans quel état vous finissez les concerts, Ibrahim Alouf? Dans quel état d'esprit, même? Parce que physiquement, j'imagine que vous êtes épuisé.
Ouais, physiquement, la trompette, c'est chaud quand même.
Mais c'est pas comme si vous restiez en plus immobile sur scène pour tout raconter. La scène de Bercy, je pense que vous l'avez parcourue à peu près.
Vous êtes un sportif de haut niveau.
J'ai fait mon marathon, c'est ça.
Mentalement, comment vous finissez un concert?
Heureux, parce que la plupart du temps, le concert se passe bien. je crois que j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Je me sens en sorte de syncrétisme avec le public, sans vouloir parler de religion ou quoi, mais il y a quelque chose de spirituel en fait qui est très fort. J'ai l'impression que on se comprend, c'est-à-dire qu'il y a un vrai lien qui s'est créé. J'irai pas jusqu'à leur dire I love you, mais enfin je le sens quand même beaucoup ce truc-là. Je sens qu'il y a une sincère joie des deux côtés. Voilà.
On va reparler de tout ça dans quelques instants. On va parcourir la liste de nos envies. On va parler aussi de télévision, d'écran, d'une façon plus générale. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été, Eva Rock.
Tout va bien, on est là à l'antenne et on ne pensait pas qu'on était en direct tout de suite comme ça. Tenez, je vais vous faire un petit cadeau d'abord.
Ça fait un mois
Ibrahim
qu'on est en direct tous les matins.
Oui, mais c'est parce que j'étais en train de... J'étais un peu perturbée. Attendez, on va vous allumer votre micro.
Pardon,
vous disiez quoi, Ibrahim?
Je disais que mes réponses étaient trop longues.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
Et vous m'avez dit, mais non,
tout va bien. J'ai même un cadeau pour vous. Est-ce que vous rêvez encore, Ibrahim? J'espère que vous allez dire oui.
Ben oui.
Parce qu'il y a des hommes qui ont rêvé. Ils ont rêvé d'aller sur la Lune et ils l'ont fait. C'était il y a 50 ans. Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur la Lune. Nos confrères Alain Siroux et Jean-Philippe Ballas signent un magnifique livre qui s'appelle Les hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo. C'est aux éditions du Seuil. Je vous l'offre parce que c'est d'abord un livre esthétique, évidemment, très bien renseigné sur l'épopée. Et puis, c'est un ouvrage qui donne également la parole à des artistes qui racontent leur perception de cet événement, de Ryan Gosling à John Baez, en passant par Sting ou encore Hubert Reeves, et préfacé par le réalisateur Damien Chazelle. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà croisé dans la vie avec Damien Chazelle.
Non, mais j'adore ce qu'il fait.
Le réalisateur alors, de First Man, le premier homme sur la Lune, mais aussi de La La Land et de Whiplash, qui termine actuellement Eddie, une série pour Netflix dans l'univers du jazz à Paris. Je me disais que ça serait bien que vous rencontriez, parce que Damien Chazelle plus Ibrahim Alouf, sincèrement, on a envie d'entendre.
J'adorerais.
Voilà, ça c'était pour le petit cadeau pour vous. Ibrahim, est-ce que vous regardez encore la télévision? C'est un objet rectangulaire. Oui, vous voyez à peu près de quoi. Parce qu'à chaque fois, on leur dit aux invités, vous voyez, c'est un truc, une boîte, quoi, une boîte noire. Non, vous regardez encore la télé?
Je regarde. Je trouve toujours quelque chose d'intéressant dedans.
Est-ce que vous travaillez pour des bandes originales de films? On l'a dit. Vous attendez, comment vous faites pour travailler? Vous attendez de découvrir le film et d'écrire la bande originale ensuite? Ou c'est un travail de collaboration avec le réalisateur tout au long du tournage et du montage?
Ça dépend des réalisateurs, mais de plus en plus maintenant, c'est vraiment une collaboration qui commence très en amont de la construction du film. Et c'est les plus belles collaborations d'ailleurs, c'est celles où on nous prend, enfin je parle nous dans le sens des compositeurs, on nous prend en considération tôt et que c'est pas juste un truc qu'on rajoute à la fin.
Vous allez sur le tournage par exemple?
Oui,
et
j'adore ça, je trouve ça justement très inspirant. D'être sur le tournage, on se rend compte de beaucoup de choses qui aident sur la musique. Oui, et même au-delà de ça, en fait, même sur la manière d'envisager la musique, on l'envisage pas de la même manière quand on voit comment l'acteur principal, par exemple, ou l'actrice principale se transforme et joue un tel ou tel rôle. Le rôle de la musique, il n'est pas envisagé de la même manière.
Et si on vous proposait de rééditer l'expérience menée par Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud, qui a joué toute une nuit devant le film de Louis Malle qui était projeté sur un écran, vous accepteriez ou pas?
Alors, je l'ai déjà fait, pour le plaisir, avec un réalisateur qui m'avait proposé de faire une musique et il n'avait pas le temps. Et nous, il n'avait pas d'argent du tout. Et, Et je me suis dit, tiens, allez, c'est l'occasion de faire un truc.
Ça.
Et donc,
impro.
J'ai ramené des musiciens et on a improvisé voilà, sur une musique. Voilà.
Et c'est où c'est, elle est où, cette musique Sur des bandes cachées ou
Ouais, on n'a pas vraiment encore sorti ça, mais ça
pourrait.
Ça ne saurait tarder.
Ouais. On a reçu Renaud Capuçon ici il y a quelques semaines, qui vient de sortir un album d'ailleurs de musique de film interprété au violon. Vous pourriez le faire à la trompette.
Bah, c'est pas trop pour l'instant, c'est pas trop le genre de choses que j'ai envie de faire pour l'instant, parce que comme j'ai tellement de choses déjà que j'ai composées et que j'ai envie de sortir, ça me... parce que vous savez, quand vous sortez un album, c'est quand même 1 ou 2 ans de votre vie. Mmh. Et donc, comme j'ai pas mal de musique que j'ai envie encore de publier, ben, si je prends 1 an ou 2 ans pour sortir des musiques que je n'ai pas composées, du coup, je vais être frustré, je vais attendre encore 2 ans et ils vont me dire hey, Ibrahim, comment ça se fait que tu...
Comment ça se fait qu'on attend 6 ans
Quand vous dites ces 2 ans de vie, c'est-à-dire 2 ans de votre vie en termes de préparation, d'écriture, d'enregistrement, ou 2 ans de votre vie mentalement aussi, parce que vous baignez dedans.
Les deux, ouais. Et puis parce que y a une durée de vie aussi pour un album. En général, c'est 1 an ou 2. Le temps de faire une tournée, le temps de lui donner un peu d'existence. Enfin, c'est rare. Et encore, moi, j'ai fait quelques albums sans tournée. Hein.
Mais oui.
Le Levantine Symphonie, on n'a pas fait tournée. On a fait 3-4 concerts, c'est tout. Alors que c'est un énorme projet. Hommage à Dalida, j'ai fait un Dalida by
Ibrahim. On va écouter un extrait tout à l'heure.
Voilà, donc j'ai quand même fait des albums qui n'ont pas tourné, mais c'est frustrant un peu. Donc,
C'était ma question de tout à l'heure qui me revient maintenant. Est-ce qu'il y a un endroit autre que sur scène où vous êtes le plus heureux?
Oui,
vous voulez
mais...
que je la refasse en français, ma question ou pas?
J'ai compris comme le 3 de sens.
Vous, voilà.
J'ai compris.
Vous, être heureux sur scène, très très heureux même. Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes encore plus heureux?
Oui, moi, avec ma fille, avec ma mère, avec ma famille, avec ma grand-mère de 98 ans qui habite chez moi. Et ce sont les meilleurs moments du monde en fait même.
Et c'est vos premières auditrices?
Oui.
C'est vrai? Vous leur faites écouter l'album avant,
Pas toujours avant, mais la plupart du temps, ouais. Et c'est surtout dans le sens premières auditrices, c'est les premières personnes qui me font des remarques. Et souvent, elles ne sont pas tendres.
Oui, il y a vos voisins aussi qui sont vos premiers auditeurs, pour le coup.
mais ma famille, quand ils font des remarques, ma famille, ils sont jamais... ils me font jamais plaisir, quoi. Ils me disent la vérité.
Parce qu'ils sont musiciens aussi, donc.
Entre autres, ouais, pas
votre maman est pianiste, notamment.
Ouais, ma mère, par exemple, elle me fait des remarques parfois. Je sais qu'il y a des chances qu'elle écoute ce matin, mais c'est pas mal, maman. Hein, je suis content. mais elle me fait des remarques parfois dures. Moi, la première fois que j'ai fait écouter cet album-là, Sens, qui vient de sortir, la première fois qu'elle l'a écouté, elle a fait. Ouais.
Ah, et alors comment vous réagissez quand elle vous dit ça?
Eh ben, je dis, maman, t'as rien compris.
Parce qu'on est un peu vexé. Mais en même temps, je suis sûre que ça vous fait cogiter quand même.
Ça me fait cogiter, oui. Mais en même temps, ça me fait réaliser certaines choses, surtout. Elle adore quand il y a des grandes mélodies, des belles mélodies et tout. Et je dis, mais maman, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de faire des grandes mélodies. Ce que j'ai envie de raconter aux gens, ça passe pas forcément que par la mélodie. J'ai vécu des choses aussi dans ma vie qui font qu'il n'y a pas que la mélodie qui est beau. Je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui sont belles aussi. Et donc, ça crée du dialogue. Ça veut pas
Bien
dire
sûr.
Qu'ils vont transformer ce que j'ai fait. Mais par contre, ça me permet de réaliser. Où j'en suis aussi.
Mais vous ajustez pas en fonction, c'est fait, voilà.
Ouais, jamais. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui prennent ça bizarrement, qui s'imaginent que c'est une sorte d'orgueil. Mais jamais je ne modifie une musique en fonction de ce qu'on m'a dit de faire.
Sinon, vous la modifieriez 50 fois, il y aurait 50 avis différents.
Et puis surtout, ça ne satisfait jamais personne.
Exactement, et tant mieux. Et
heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer Ibrahim Malouf devant une caméra ou derrière une caméra d'ailleurs?
Plus derrière que devant.
Plus derrière que devant.
Ouais, j'ai déjà réalisé des documentaires ou des choses comme ça, mais par contre, devant la caméra, il faut vraiment que ça soit vraiment quelque chose de très, très, très intense et fort et important pour moi.
Bon, peut-être un jour. On sait jamais. Hein. Ce soir, à 21h sur TMC, je voulais juste vous dire de ne pas manquer le seul en scène de Vincent Dodienne qui est intitulé S'il se passe quelque chose.
Bonsoir. Est-ce que certaines personnes se sentent déjà submergées par l'émotion? Dans un spectacle, il faut du rythme.
J'arrive pas à trouver la sortie.
Voilà. Est-ce que tous les gens qui ont un gros nez peuvent se plier? Donc là, vous venez d'assister à un sketch. C'est chaud, les marrons chauds.
Alors, il s'agit d'une bande annonce pour un spectacle, c'est toujours un peu compliqué. On vous en parle d'abord parce que Vincent Dodienne sera notre invité demain et on en est très très heureux. Mais parce que voilà, il met du sens aussi dans ses spectacles et c'est pas de l'humour que pour de l'humour. Mmh. On voulait vous indiquer cette diffusion ce soir sur TMC à partir de 21h. Ibrahim Malouf, dans un instant, c'est notre humoriste un peu mythomane, vous allez comprendre. Hein. Ben H qui va nous rejoindre. Mais avant, vous nous avez fait découvrir.
Je la refais. Vous nous avez fait découvrir la chanteuse Sheila Frazier. On avait très, très envie de l'écouter. Et je vous propose Seeing You sur Europe 1. Thought I heard you at the door, but you didn't turn the key. Even left the porch light on, just a case of a wishful thinking. When I fall asleep tonight, gonna find you waiting in my dreams. You
to keep believing. When I fall asleep tonight, gonna find you waiting in my dreams. My dreams, oh, you don't have to be here. I still hear you laughing, all the smiles and the tears.
Chez Léa Frazier, coup de cœur d'Ibrahim Malouf sur Europe 1. On peut dire aussi que c'est le nôtre aussi. Elle exprime ça, vous êtes d'accord ?
On valide.
Allez, c'est validé. Aussi. Dans un instant, c'est Ben H qui vient nous raconter son nouveau périple.
Europe 1, le club de l'été, Eva Rock.
Il est 9h52 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité, le musicien Ibrahim Malouf. Ibrahim, je vous présente Ben H. Il faut que vous allumiez votre micro.
Il est allumé.
Ah, voilà, il est allumé. Voilà. Ben H, il a pour mission de nous faire voyager cet été avec des cartes postales mythomanes. Comme ça, au moins, on sait qu'il y a...
Ouais, voilà, le principe est clair.
Hein, voilà. Vous revenez d'où ce matin, Ben H ?
Eh bien, vous commencez à me connaître, Eva, hein, mon goût pour le voyage et le pipeau. Alors, face à un trompettiste franco-libanais, ce matin, gros craquage, je reviens tout droit de Beyrouth.
Ouais.
Pour tout vous dire, il y a encore à peine 12 heures, là, j'étais encore en train de bouffer du houmous dans le nombril d'une certaine Yara, une charmante autochtone de la place plage de la plaine de la Beka qui vient d'ouvrir un petit salon de thé non loin de la place de l'Étoile de Beyrouth.
Sauf que Ben H, on va peut-être se passer de certains détails. Voyez.
Ah, ok, ouais. Vous ne voulez pas que je sois trop précis sur la géographie.
Je parlais plutôt d'histoire du houmos.
Ok, très bien, Eva. Mais si vous n'aimez pas cette préparation culinaire du Proche-Orient, composée notamment de purée de pois chiches, n'en dégoûtez pas les autres.
Non, hein. C'est pas ça non plus. C'était plutôt du côté du nombril.
Ah, ok, voilà, pardon, ouais. Oui, bien sûr, c'est vous la bosse, hein, ouais. Je me disais juste, si je peux me permettre, que, bah, quitte à m'inventer un voyage que je n'ai pas fait, autant m'inventer aussi une copine que je n'ai pas, hein, quitte à rêver seul depuis mon studio à Paris, je me suis dit, fais-toi plaisir, Ben H, mais non, très bien, ok, donc je ne vous parlerai donc pas non plus hein, de Marwa, qui est barmaid au Skybar de Beyrouth.
Oui, voilà, hein. Non, voilà, c'est ça, mais c'est beau le Liban, on est d'accord.
Oui, c'est très très beau, mais je peux pas vraiment vous en parler.
Et pourquoi?
Bah, parce que sinon, je serais aussi obligé de vous parler de Aya, guide touristique aux cheveux d'ébène, qui m'a fait visiter cette ville. Cette ville est tellement plus encore. Hein, cette ville est à travers elle ce pays qui se relève d'un passé douloureux que notre invité ce matin, Ibrahim Alouf, a dû fuir tout jeune avec sa famille. Un passé toujours très présent dans les têtes, mais les nouvelles générations sont tournées hein, vers l'avenir. En tout cas, c'est ce que me disait Yazel, une doctorante aux yeux noisettes de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Mais j'en parlerai pas non plus. Du coup,
mais vous avez une anecdote sur le Liban qui a quand même, enfin, qui a pas un rapport avec une Libanaise.
Eh ben, j'avais prévu que vous me diriez ça, Eva. du coup, j'ai prévu une petite photocopie de la page Wikipédia du Liban. Revenons sur du factuel et on réalise assez vite en regardant la carte que le Liban, aussi beau soit-il, est quand même au beau milieu d'une région bien tendue. Hein, et tendue même avec bien de vent, ça reste encore un euphémisme. Le Liban, en fait, dans une voiture, c'est le type sympa qui est à l'arrière, à la place du milieu. Et de chaque côté, il se tape deux types balèzes et un peu relous. Et malheureusement pour lui, il reste encore un peu de route avant les vacances, visiblement. Hein. Bref, toute cette carte postale pour vous dire trois choses ce matin. La première, c'est que Beyrouth possède une vie nocturne extrêmement vivante. Vous confirmez, Ibrahim Malouf?
Oui. Complètement.
La seconde chose, c'est que, à mes yeux, si ça n'a pas été assez clair pendant le papier, hein, les Libanaises sont les plus belles femmes du monde. Vous confirmez, Ibrahim Alouf?
Oui, tout à fait.
et la troisième chose, c'est qu'effectivement, je suis célibataire et ça commence à me peser. Vous confirmez, Ibrahim Alouf?
Bah, vous devriez aller au Liban.
C'est ça. Pour conclure, Eva, Ibrahim, hein, ce voyage, c'était certes du n'importe quoi ce matin, mais à l'avenir, la destination est cochée. J'en suis convaincu. Beyrouth et le Liban, plus généralement, c'est vachement sympa. Merci de m'avoir écouté.
Je crois que je vais partir avec vous, Ben H.
Ben, on y va.
Je ne suis pas Libanaise. Hein, oui, mais parce que
les Libanais sont peut-être les plus beaux hommes du monde aussi.
C'est possible.
Moins tranché.
Il faudrait peut-être manger un peu moins de houmous de nombril.
Vous parliez de la fiche Wikipédia, Ben H, que vous avez sortie pour le Liban. Alors moi, j'ai sorti la fiche des concerts Ibrahim Alouf. Regardez, c'est une
c'est un poster,
c'est
en fait.
C'est une page à trois. Je vais donner quelques dates. Ah, donc, le 24-25 septembre, le 23-24-25 septembre à l'Olympia, c'est complet. Ah. 28 septembre, vous êtes à Brest. Le 29 septembre, au Zénith de Nantes. 6 octobre, à Rennes. Le 12 octobre, à Toulouse, au Zénith aussi. Arena de Bordeaux, le 13 octobre. Enfin, ça s'enchaîne jusqu'au 8 décembre. Est-ce que le mot vacances, vous le connaissez?
Juste après.
Juste après quoi? Juste après le 8.
2-3 mois de vacances. Non, parce qu'on a. Vous avez cité tout à l'heure, il y a
les. Mais oui, 14 et 15 décembre à la scène musicale avec la reprise de Kaltoum.
De Kaltoum, hein, ça c'est vraiment. Je suis tellement content de reprendre ce programme Kaltoum. Ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas joué. Et souvent, on me dit, mais c'est dommage de ne pas. Mais en fait, j'avais envie de le rejouer. Je reçois très souvent des messages de gens qui me disent « Bon, c'est sympa ce que tu fais, mais quand même, Kaltoum, c'était bien, c'est dommage que tu ne le rejoues pas. » Et à force de recevoir ce genre de messages, je me suis dit « Bon, bah, j'ai tellement envie de le jouer, ce programme. » Donc, je réunis à nouveau le quintet avec D'accord. qui on avait tourné. Des musiciens vraiment super. Et voilà. Et donc, je suis très, très content de refaire ces deux dates. Après ça, des vacances.
Et après, on
reprend la tournée de 3 mois et après on repart en tournée à partir d'avril.
Quand vous écrivez Sens, votre album qui est attendu le 27 septembre, est-ce que au moment de l'écriture et de l'enregistrement, vous pensez déjà à la façon dont vous allez le mettre en scène pour les concerts?
Alors, au début, quand je faisais mes albums, pas du tout, parce que mon rêve était de faire de la musique de film et j'en faisais pas à l'époque. Donc, je construisais mes albums comme des musiques de film. D'ailleurs, si vous écoutez les 3 premiers albums, vous entendez même des bruitages extérieurs de la rue, de lieux, d'endroits, etc. Et ça, c'est parce qu'en fait, je voyais tout cinéma à l'époque. Et donc, j'envisageais pas du tout sur scène. Et les 2-3 premiers albums que j'ai faits, ce que je faisais en tournée n'avait rien à voir avec les albums que j'avais sortis, ce qui était quand même complètement bizarre, du coup. Et au fur et à mesure, avec le temps, j'ai fini par adapter ça. Et évidemment, maintenant, quand je fais un album, je pense autant à l'album qu'à la scène.
Ah oui, en même temps, en parallèle, vous savez à peu près ce que vous allez faire sur scène.
Maintenant, oui.
Mais donc, ça veut dire que quand même, vous avez aussi ce côté cinématographique. Parce que quand on imagine la scène, votre sens, c'est la vue qui fonctionne généralement.
Non, mais je ne parle pas... Quand je vois la scène, je ne vois pas la mise en scène.
Ah, vous ne voyez pas la mise
non,
en scène.
Non, je vois le fait de le jouer sur scène.
D'accord.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'albums aujourd'hui qui sortent, qui sont très, très, très bien produits. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de chez Léa, j'ai bien précisé en live, quoi.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a énormément d'albums qui sont extraordinaires, avec des voix extraordinaires. Mais puis, quand vous écoutez en live,
sur scène, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà, parfois, l'artiste en lui-même ou en elle-même, la voix n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, à ce à quoi on s'attendait. Mais aussi, les arrangements, c'est-à-dire, dès qu'il y a beaucoup d'électronique, par exemple, ou de production avec des sons très, très efficaces d'ordinateur et tout comme on peut entendre aujourd'hui, et ben dès que c'est sur scène, c'est beaucoup plus mou, c'est une vraie batterie qui joue, ou alors c'est un DJ, quoi. Le DJ, c'est un enregistrement qu'on balance, quoi. Et donc, du coup, je pense à ça. C'est-à-dire, je veux que mon album soit le meilleur possible, mais qui corresponde aussi au meilleur possible qu'on puisse faire sur scène. Voilà.
Votre album, il s'appelle Sens. Nous, c'est un mot qui est récurrent dans le club de l'été. On adore jouer avec nos sens, justement. Ouais. Si je vous demande une odeur de votre enfance, ce serait laquelle ? Alors, à Beyrouth ou à Étampes, où on va partir dans quelques instants?
Dans les deux cas, c'est le za'atar, je crois. Le za'atar, dans la cuisine libanaise, c'est un mélange entre le thym, le sésame et je ne sais plus quoi. Bref, c'est une sorte de salade sèche, en fait, c'est assez étonnant. Et ça, c'est dans toutes les maisons libanaises en général, et ça sent.
Et c'est l'odeur qui vous revient.
Et c'est l'odeur qui remonte. Oui,
est-ce que c'est le goût qui vous revient aussi ?
Les deux.
Les deux. Mmh. Bah, peut-être qu'on va en déguster tout à l'heure.
C'est possible.
En tout cas, on va partir et pour le Liban et pour Étampes où vous avez grandi aussi, Brahim Malouf. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Et oui, c'est déjà la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h, une deuxième heure placée sous le signe du partage une nouvelle fois. Partager des bons plans de sortie, quelques astuces culinaires, sans oublier la musique et l'inspiration de notre invité, le compositeur et trompettiste Ibrahim Malouf. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, dont le nouvel album Sens, avec un 3 à la place du E, est attendu le 27 septembre. Lise Pressac, grâce à Ibrahim Malouf, où partons-nous ce matin ?
On va pas très loin d'Étampes, dans le sud de l'Île-de-France. On va visiter un parc naturel régional.
Très bien. Et Olivier, il sera évidemment question d'Orion dans nos assiettes.
Moi, je vous emmène beaucoup plus loin.
Oui, voilà.
Ah ben oui, moi, je vous emmène carrément au Liban et je vais vous faire goûter la gastronomie libanaise parce que je sais que vous êtes particulièrement gourmand et il y aura peut-être quelques petites surprises. Et puis Eva a cuisiné hier soir, elle nous fera goûter des poivrons magnifiques tout à l'heure. Enfin bref.
Magnifique, on ne sait pas encore.
Poivrons à l'huile méditerranéen, vous voyez, Ibrahim Malouf.
Ouais, vous avez vraiment cuisiné ça.
Oui, j'ai vraiment cuisiné ça. Et c'était vraiment parce que c'était vous.
Wow. 9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Et parce qu'Olivier Pouls me crie dessus si je ne le fais pas. Oui, c'est mes devoirs du soir. Il me donne des recettes et je dois les appliquer. Ibrahim Malouf, je vous embarque dans notre machine à remonter le temps. Vous allez voir, c'est une machine à remonter le temps en musique. Est-ce que vous savez, par exemple, alors quelle chanson tournait en boucle à la radio en France pendant l'été en 1980, qui est l'année de votre naissance ? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être ?
Ça peut pas être un truc genre du Joe Dassin, des trucs comme ça ?
Eh bien, vous n'êtes pas très loin. Écoutez.
On est arrivé dans les jardins.
Ah, je connais très bien ça.
Pas,
les jardins du ciel de Jairo.
Il va
entendre
dire que c'est des Belges.
C'est pas des Belges.
Mais pourquoi vous connaissez cette chanson ?
Je sais pas, ça tournait à la radio à l'époque. Moi, j'étais un petit peu plus âgé, j'avais 9 ans. Et bien, je me souviens très bien de cette chanson.
Gros succès pendant l'été 1980 en France.
Oh.
Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Alors, en 2001, vous êtes le lauréat du prix national à Washington. Quelques heures plus tard, les tours jumelles à New York s'effondrent. C'est un événement qui a été déterminant dans votre parcours.
En fait, oui, mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, moi, j'ai décidé de faire ce concours avant que les tours jumelles ne tombent. Et moi, quand j'étais petit, je dessinais ces tours jumelles chez moi et je rêvais un jour de devenir architecte et de construire ce genre de gratte-ciel à Beyrouth. Et en fait, entre le moment où j'ai décidé d'aller faire ce concours et le moment où j'y suis allé, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les attentats. Et j'étais 6 mois, jour pour jour, après les attentats. J'étais à New York, à Ground Zero. Je me suis recueilli là, sur place. Je venais tout juste de gagner le concours à Washington. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans la musique, enfin, en tout cas dans la trompette, plutôt que l'architecture.
Ah oui, c'était presque un mal pour un bien, j'avais envie de vous dire.
Peut-être que l'architecture a beaucoup perdu, on n'en saura jamais, mais la musique a beaucoup gagné.
Mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'en voyant les tours jumelles à New York, qui était mon idéal à l'époque quand j'étais petit, voilà, moi, je mélangeais un peu tout, mais je veux dire l'Amérique, Michael Jackson, les tours jumelles, tout ça, c'était waouh, c'était l'idéal. Et je venais d'un pays, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça, mais moi, quand j'étais petit, l'été, quand tout le monde partait en vacances, il y en a qui allaient au Touquet, d'autres qui allaient en Côte d'Azur et tout. Et moi, à la rentrée, on me disait alors, et toi, tu as passé tes vacances où ? Je leur disais, je suis allé dans un pays en guerre civile. Donc en fait, c'est resté quand même quelque chose d'assez fort, je pense. Et c'est vrai que de voir ces tours jumelles effondrées, alors que c'était vraiment, je les idolâtrais, moi, dans ma chambre, j'avais des tours jumelles partout dessinées et tout, je rêvais de ça. Pour Beyrouth. Et c'était assez décisif. Ouais. Voilà.
Alors, à l'été 2001, en France, on chante aussi un titre anglais. Écoutez ça. It's raining men. Il pleut des hommes. Ça me fait toujours rire, la traduction en français.
Surtout.
Non, ça me fait pas rire, vous êtes bête. Jerry Halliwell, il est
ouais,
bête.
C'est pas aussi bien que l'original, quand même.
C'est pas aussi bien que l'original, on est d'accord. Et en 2006, quand vous devenez professeur au conservatoire, il y a un duo qui tourne en boucle aussi et sur les radios. Je sais pas si vous écoutiez ça. Open to
c'est Moby.
Ouais, Moby et avec.
Il y a Mylène Farmer.
Il y a Mylène Farmer. Exactement. Une collaboration entre Moby et Mylène Farmer.
Mais je me rappelais pas de ça.
Quel est l'artiste avec lequel vous aimeriez collaborer? Bon, quand on a collaboré avec Quincy Jones, c'est difficile de poser cette question. Mais imaginons, avec qui vous aimeriez aujourd'hui travailler?
Ah si, j'ai jamais pensé comme ça, mais je rêverais de faire un duo avec Férouz, par exemple. Vous imaginez? C'est fou. Mais j'ai jamais trop pensé comme ça.
C'est vrai?
En vrai, ouais. J'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires, parfois avec des artistes complètement inconnus, mais qui m'ont transformé, retourné la tête. Et parfois avec des artistes vraiment, voilà, des stars ou quoi. Et c'était génial aussi. J'ai jamais trop envisagé les choses en me disant, tiens, je veux faire ça ou j'ai rêvé de ça. J'ai laissé les choses se faire assez naturellement.
Même Quincy Jones, vous n'aviez pas rêvé de jouer
non,
avec lui?
Non, même pas. J'aurais jamais osé.
Vous auriez jamais osé.
C'est au-delà du rêve, quoi.
Ouais, c'était impossible. Même qu'un jour ou l'autre, il me demande quoi que ce soit.
Ibrahim Alouf, je vous propose de poursuivre nos pérégrinations culturelles. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et nous sommes toujours en direct. Il est 10h12, mon cher Olivier Pouls. Et nous sommes
bien
ensemble
vu.
Jusqu'à 11h avec notre invité, le musicien Ibrahim Alouf. Non, parce que j'ai un vrai problème avec les chiffres, Ibrahim. Et même
mais
dans
il s'en
le,
est rendu compte
même
déjà,
dans,
je crois.
Même dans l'heure, c'est-à-dire que je me trompe toujours. Voilà. Avant d'aller découvrir les environs des temples, on va prendre encore un bol de culture grâce à vous, Lisprezac. Et on va débuter avec Queen en concert au Global Citizen Festival pour lutter contre la pauvreté.
Alors déjà, la première nouvelle, c'est que le groupe a survécu à Freddie Mercury. Moi, je l'avoue que je l'ignorais. Et bien,
aussi.
Ils seront à l'affiche du Global Citizen Festival. C'est à New York en septembre prochain, avec le chanteur Adam Lambert qui a succédé à Paul Rogers et à Freddie Mercury. Donc, les billets sont gratuits, mais en échange, chaque spectateur s'engage à mener une action pour lutter contre la pauvreté. Alors, à l'affiche également, Pharrell Williams.
Je rêve de vous voir collaborer avec Pharrell Williams, Ibrahim Malouf. Je sais pas
très
pourquoi.
Mal, ouais.
On s'est déjà croisé dans des festivals. Enfin, j'ai jamais parlé, mais on s'est déjà croisé dans des festivals. Souvent, c'est fou, hein, les festivals, on croise des gens... C'est improbable, on croise des artistes incroyables comme ça d'une scène à l'autre. Mais je rêverais de ça aussi.
Ah, autre artiste qui serait pas mal non
qui
plus.
Qui serait pas mal aussi, ouais.
Alicia Keys. Voilà, je vous donne des idées de collaboration comme ça. En tout cas, le festival sera présenté par le couple d'acteurs Hugh Jackman et Deborah Lee Furness, avec l'intervention d'autres célébrités comme le réalisateur américain Forest Whitaker ou encore l'acteur Rami Malek qui avait interprété Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody. Le Global Citizen Festival, c'est à Central Park, donc à New York, le 28 septembre, au moment où se tient l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Et vous nous faites maintenant prendre de la hauteur en Meurthe-et-Moselle.
Oui, c'est l'histoire d'un pari fou lancé il y a 30 ans par Philippe Buron-Pilâtre. C'est le descendant de Jean-François Pilâtre de Rosiers, le premier homme au monde à s'élever dans les airs en 1783 à bord d'un engin soulevé par la seule énergie de la chaleur. Et bien en 1989, il crée l'un des plus grands rassemblements de montgolfières au monde, le Mondial Air Ballon. L'événement devait être unique, il en est à sa 16e édition qui a donc lieu en ce moment sur la base de Chamblay, c'est en Meurthe-et-Moselle. Un événement rare parce que la manifestation n'a lieu qu'une fois tous les deux ans, matin et soir pendant 10 jours, pas un jour de plus, avec évidemment de possibles annulations en fonction de la météo. Oui. Le Mondial Air Ballon attire des équipages venus du monde entier et un public nombreux venu assister évidemment à ce moment magique du décollage simultané de ces centaines de toiles colorées. C'est un spectacle à voir en ce moment jusqu'à dimanche à Chamblay, c'est en Meurthe-et-Moselle.
C'est absolument sublime, ouais. Ce spectacle depuis les airs. Ouais. Enfin, on termine par le festival Chansons et mots d'amour.
Oui, un festival qui fait dialoguer.
Il manque pas un R,
Eva. Un festival qui fait dialoguer chansons et littérature autour d'un thème cette année, c'est le cinéma. Il se passe à Amou, c'est donc un village landais de 1541 habitants, d'où le jeu de mots. Un festival parrainé depuis sa création en 2012 par Marie-Christine Barrault et avec chaque année un parrain musical. Et quel parrain cette année? C'est Oxmo Puccino.
Le le bruit de la pluie sur le bitume en panne, l'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent.
Vous ne connaissez pas du tout Oxmo Puccino, Ibrahim Malouf. Hein.
Vaguement. Oxmo qui se lancera samedi soir dans une performance avec un typographe et un guitariste. Au programme également des concerts plus classiques de Clarica, Clio, Lou Casa et Chloé Lacan. Il y aura des lectures musicales, Roger Vadim par Marie-Christine Barrault, Françoise Sagan par Caroline Love, on en avait parlé l'année dernière. Mais aussi deux projections sous les étoiles, j'ai pas fait exprès, Eva, La La Land de Damien Chazelle demain soir et Podan de Jacques Demy vendredi après-midi, le festival Chansons et mots d'Amou. C'est à partir de demain et jusqu'à dimanche, c'est à Amou, donc dans les Landes.
Je vous charrie un peu avec Oxmo Puccino, mais c'est vrai que vous connaissez très bien, c'est presque un frère pour vous, Oxmo Puccino.
On a fait pas mal de belles collaborations ensemble. On avait fait un album autour de Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle Au Pays d'Alice, avec
très
orchestre et tout ça, donc c'était chouette. Puis il avait aussi participé à un titre de mon troisième album qui s'appelle Douce, puis il était un de mes invités à Bercy, plein de fois.
Vous êtes rencontrés grâce à la musique ou vous étiez rencontrés auparavant?
Non, grâce à la musique.
Oui.
Grâce à la musique. Et puis après, on a fait connaissance avec plein d'autres personnes qui ont fait que finalement, on faisait partie un peu de la même famille artistique aussi.
Dans la famille artistique, justement, d'Ibrahim Malouf, sur la planète Ibrahim Malouf, il y a M. On vous a souvent vu jouer ensemble.
Mathieu, et c'est vrai que là, surtout quand Mathieu a fait ce projet, L'Amomalie, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec tellement d'artistes vraiment géniaux de... Fatoumata Diawara, d'autres très grands artistes. Et en fait, il y a eu Toumani Diabaté et plein d'autres. Et c'est vrai que cette France mélangée avec l'Afrique, avec l'Orient, avec tous les styles musicaux, le rap, la chanson, la pop, la musique du monde, le jazz, etc. C'est ça aussi, c'est ce groupe d'amis-là. Et c'est grâce à ce groupe-là aussi que j'ai pu faire la musique d'un des films de Kim Chapiron, par exemple, où j'ai rencontré J.R. ou des gens comme ça.
C'est ce qui vous plaît et c'est ce que vous défendez aussi sur scène, à la fois ce multiculturalisme dans la musique et dans vos propres identités à chacun.
Bah c'est une manière de voir la culture, c'est une manière d'envisager la culture. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont assez crispés sur ces sujets-là et moi, j'essaye de participer. Enfin, je fais partie d'un peu de l'école de décrispation, si j'ose dire, qui consiste à dire, mais n'ayons pas peur d'être ensemble, différents et unis en même temps. N'ayons pas peur des prénoms qui ne se ressemblent pas ou des manières de manger ou de vivre ou d'écouter de la musique ou de danser qui sont différentes, mais qui sont toutes capables d'être unies dans une seule identité qu'on appellerait l'identité française, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que je m'entends avec une bonne partie des artistes de cette génération-là.
Alors avant de partir vers Étampes où vous avez grandi, je vous propose une parenthèse musicale avec un garçon que vous connaissez par cœur aussi et qui avait eu la gentillesse de nous accompagner l'été dernier, je vais y arriver, Vincent Delerme est sur Europe 1 et il chante Fanny Ardant et moi.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Sur les étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi.
J'ai entendu imiter Vincent Delerme, Ibrahim Malouf, un jour dans un concert. C'est pas vrai ?
J'ai espéré que plus personne ne parle de ça.
Bien sûr que si.
Elle sait tout, Eva.
On va se retrouver dans un instant pour l'imitation de Vincent Delerme par Ibrahim Malouf. Pas tout de suite sur Europe 1.
Non.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 10h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club. Hein. On attend vos messages et vos questions jusqu'à 11h sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Notre invité du jour est le musicien Ibrahim Malouf. Ibrahim, quel souvenir vous gardez des temps où vous avez grandi ? Une enfance heureuse
Non, pas que des souvenirs, parce que finalement, j'y suis très souvent encore, parce que j'habite encore dans le coin. Je suis parti pendant une quinzaine d'années, puis je suis revenu. Et j'ai des souvenirs, les deux, hein. L'enfance en général, il y a des bons et des mauvais souvenirs.
Et les bons et mauvais, oui, c'est vrai. Et les bons, ça serait quoi ? S'il y a une image qui vous revient comme ça, ce serait laquelle ?
Pas toutes, mais certaines écoles. et surtout tout l'environnement musical, parce que finalement, j'ai surtout grandi musicalement dans cette région-là, en étant assez proche de tout le milieu des conservatoires, des profs de musique, des orchestres, etc. Et donc... Ben, je suis un certain nombre de fois tombé amoureux des musiciennes des orchestres dans lesquels j'ai participé étant jeune. Donc il y a aussi ces histoires-là quand on est jeune, quoi.
Mais oui, c'est les villes et les villages d'enfance, évidemment. Ça nous renvoie aussi à tout ça. Lisons par où exactement ce matin ? On va pas à Étampes.
Non, mais
fait,
pas très loin. On va à Milly-la-Forêt. Donc on est au sud de l'Île-de-France, dans le parc naturel régional du Gâtinais français. Vous connaissez sans doute Ibrahim, c'est pas très loin d'Étampes. Surnommé pays des mille clairières et du grès, le site est classé parc naturel régional depuis 1999. C'est un parc vraiment immense, qui s'étend sur plus de 75 000 hectares et qui couvre 69 communes. On est en ligne avec le directeur de ce parc, Jean-Jacques Boussingault. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour. Non, je ne suis pas directeur, je suis président.
Ah, président. Pardon, monsieur le président.
On va vous appeler monsieur le président.
Alors, non.
Alors, monsieur le président, par où on commence cette visite ?
Ah ben, vous pouvez la commencer par tous les coins du parc. Il y a toujours quelque chose à découvrir à l'intérieur des 69 communes du territoire. Donc, son objectif, c'est de protéger le patrimoine naturel et culturel de ce territoire, de ce qu'on appelle le développement durable de l'urbanisme, c'est-à-dire de construire, de ne pas vivre sous une cloche de verre, mais de construire et de respecter l'architecture locale avec des produits modernes, des matériaux modernes que nous avons mis en place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les matériaux biosourcés.
Biosourcés, d'accord.
Et quelle est l'histoire de ce lieu ? Pourquoi ce parc naturel, ici, dans cet endroit de l'Île-de-France ?
Pourquoi ce lieu ? Les élus... avaient une crainte de voir leur territoire se transformer un petit peu en village dortoir, et se sont réunis tous ensemble pour essayer de le préserver et de le développer tout en respectant la nature, les hommes qui y vivent et la faune et la flore de ce territoire qui est importante en matière d'animaux. Hein.
C'est-à-dire que si on va se balader dans ce parc naturel régional, on peut voir quel type d'animaux, Jean-Jacques Boussingault ?
Vous pouvez envoyer de tout. Les grands animaux de la... Puisqu'on est en limite de la forêt de Fontainebleau, les cerfs, les sangliers, les chevreuils. Et puis, vous avez aussi des petites bêtes qu'il faut protéger, les odonates, les libellules, les chauves-souris, qui sont aussi des mangeurs de moustiques, et par les temps qui courent, c'est très utile.
C'est important de le préciser.
Voilà.
Et donc, on peut venir se promener, évidemment, en famille, j'imagine. C'est vraiment.
Bien entendu.
Les balades idéales, notamment en cette période de l'année où il fait très chaud. Je suis sûre qu'il fait très bon dans le parc.
Il y a des jours où on a eu chaud quand même. Moins qu'à Paris,
un peu moins chaud quand même.
Un peu moins chaud qu'à Paris, ça, c'est sûr. Oui, il y a des promenades qu'on a. Enfin, il y a déjà les circuits de grande randonnée, et puis on a mis en place un certain nombre d'autres circuits de découverte sur ce qu'il y a dans notre secteur. On a plus de 2000 abris ornés avec des gravures rupestres, et donc on fait des sentiers pédagogiques où on explique ce qui s'est passé au fur et à mesure des siècles sur notre territoire.
Ouais, l'idée, c'est aussi de sensibiliser vraiment à cette protection de la nature et voilà, de faire aussi réagir tous les gens qui viennent ici vous visiter.
Voilà.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Président Jean-Jacques Bossingot, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président de ce parc qu'on a hâte de découvrir et qui se situe à Milly-la-Forêt. Merci infiniment.
Merci Jean-Jacques.
Toutes les infos, elles sont à retrouver évidemment sur le site d'Europe 1. Élise, vous allez poster tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Généralement, Ibrahim Alouf, on connaît très peu, enfin, on connaît très mal les environs du village où on vit. Est-ce que c'est votre cas ou au contraire, vous connaissiez tout par cœur les moindres recoins de la forêt?
Je ne connais pas du tout les moindres recoins, mais on se baladait souvent parce que c'était un peu notre. La seule chose qu'on pouvait se faire un peu pour sortir, on sortait très très peu quand j'étais petit, pas beaucoup d'argent. Et donc mon père nous prenait dans sa 504 Peugeot bleue et on allait comme ça visiter un peu des forêts. On allait à Fontainebleau, on allait à Milly-la-Forêt, on allait à Sacla.
Faire des pique-niques,
exactement.
Alors, Olivier, il faut reprendre les idées de pique-nique que vous nous avez données. C'était il y a deux semaines déjà, site europe1.fr. Si vous voulez faire un pique-nique, vous ne savez pas quoi cuisiner, vous allez retrouver les recettes d'Olivier, c'est super. Vous allez faire le pique-nique le plus beau de votre vie, ça va épater les copains.
Alors, il y a les recettes, mais il y a les gens qu'on emmène en pique-nique aussi, c'est très important.
Ouais,
on peut aller avec vous, si vous voulez, vous prenez la trompette et puis nous, on s'occupe de tout.
Ouais. Forcément, je suis réduit à la trompette, très bien. Donc, pas de soucis. Bon, alors, j'ai bien compris le message.
Non, mais parce qu'on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'occuper de la trompette et vous des œufs durs. Ça peut pas marcher.
Ouais. Pour la trompette, je ne sais pas comment.
Peut-être qu'Ibrahim est très fort à la cuisson des œufs durs,
oui,
on ne sait pas.
Très certainement.
Alors, je peux laisser planer le mystère et je peux aussi dire la vérité, c'est que je ne suis pas du tout très bon cuisinier. Donc.
Vous m'avez fait exploser de rire, Ibrahim Alouf, lors d'une interview que vous avez donnée à Catherine Sellac dans Thé ou Café sur France 2, un samedi matin. Elle vous demandait la phrase que vous détestez entendre et vous avez répondu des gens qui viennent vous voir des fois à la fin du concert qui vous disent « Ah, vous êtes Libanais. Ah, vous aimez le taboulé. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé votre musique. » Et alors, j'avoue, d'abord, j'ai ri et en même temps, j'étais stupéfaite. C'est comme si on me disait « Ah, vous êtes niçoise. J'adore la salade niçoise.
Ouais. »
Je trouve ça fou que les gens vous disent...
Bah ouais. Et ce qui est encore plus fou, c'est pas forcément ça. Parce qu'à la rigueur, quand t'es Libanais, c'est normal que les gens te disent « Ah, j'adore le Liban, j'adore la bouffe libanaise, etc. » C'est pas grave.
Oui.
Mais c'est surtout le fait de dire « Vous êtes Libanais. Moi, j'adore, par exemple, tel plat. » Bravo pour votre concert.
Oui, bravo pour votre concert.
C'est surtout le lien que je trouvais étonnant.
C'est plus important le taboulé et après votre musique. Alors justement, c'était une transition toute trouvée parce qu'on va parler gastronomie libanaise. Olivier, je sens que ça va sentir les épices hein, dans ce studio. Rendez-vous dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
Bon, à table.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Notre invité est le musicien, compositeur Ibrahim Alouf. Est-ce que vous êtes du genre gourmand, Ibrahim?
Ah oui.
Ah oui, oui,
vous n'avez pas attendu de me poser la question, vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, c'est Olivier, il a pressenti.
Non, parce
qu'on
vous a vu arriver avec votre petit déjeuner, des gens, je me suis dit, tiens, lui, à mon avis, il aime bien.
Je vous ai ramené des pancakes.
Oui, c'est vrai.
Quelle est votre Madeleine de Proust, Ibrahim Alouf?
C'est un peu sentimental, mais en même temps, c'est vraiment très, très bon. Quand ma mère fait le taboulé.
Oui.
Il est juste excellent.
Mais alors peut-être qu'il faut vous expliquer comment elle le fait, parce que le taboulé libanais, en tout cas dans mon imaginaire, c'est beaucoup d'herbes.
Oui.
C'est pas du tout le taboulé que vous pouvez manger à Paris.
Non.
Est-ce que c'est le cas aussi? Votre maman le fait aussi comme ça?
Oui, et la différence avec la plupart des restos aussi, c'est que, et ça change vraiment tout au goût, c'est que tout est coupé de manière extrêmement fine. Quand vous allez dans un resto libanais, la plupart du temps... Le persil, il le coupe un peu, mais il reste quand même... vous voyez presque des feuilles de persil. Les tomates sont coupées en gros cubes, etc. Ma mère, quand elle le fait, elle est tout petit, ce qui fait que ça fait vraiment une salade, parce que ça se mélange vraiment. Et ça, plus le boulgour, elle met quand même une bonne quantité de boulgour, et ça fait la différence, je trouve.
Olivier ?
Vous cuisinez un peu ou pas ?
Très très peu, non, très très peu.
Bon, ben moi, je vais vous emmener, alors du coup, manger de la cuisine libanaise.
Volontiers.
Mais on ne va pas au Liban, on va à Paris.
On va à Paris,
rue François 1er, dans un restaurant qui s'appelle Al Adjami. Et nous avons au téléphone Fadi Adjami. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Fadi.
Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce midi?
Alors, on vous a préparé le taboulé libanais.
Mais alors, couper un petit morceau ou pas?
Couper un petit morceau, hein.
Exactement, comme l'a dit Ibrahim Malouf, un bon taboulé, il faut du persil plat et non du persil frisé. Il faut que le persil ait une bonne odeur, c'est-à-dire qu'on sente qu'il ait de l'odeur et qu'il soit haché fin. On rajoute aussi de la menthe, qui doit être aussi haché fin. Et il faut que l'huile d'olive soit de qualité.
Est-ce qu'on peut mettre de la coriandre?
Non, surtout pas de coriandre.
Pas de coriandre.
Arrêtez avec la coriandre, Olivier Pousse. Et vous inquiétez pas, Fadi, c'est parce qu'il met de la coriandre partout.
Il faut mettre du citron pressé à la main. Et certains établissements qui mettent du citron bouteille ou du concentré, on le sent tout de suite au goût. La fraîcheur du citron pressé à la main est très importante. Et du boulgour brun, pas à confondre avec le boulgour blanc. Donc nous, par rapport au taboulé marocain, ou maghrébin, il y a beaucoup de boulgour et peu de tomates et de persil. Quand on a dans le taboulé libanais, il est de couleur très verte avec les tomates rouges et il y a du boulgour, mais en assaisonnement, pas comme le taboulé du Maghreb. Moi, nous, ce qu'on recommande, c'est de râper un peu de pulpe, un peu de citron vert. Ça parfume... Ça parfume le goût. Certains établissements mettent de l'ail. Nous, on ne le fait pas parce que quand même, ça a un goût assez prononcé. Nous sommes le restaurant Adjami. Mon grand-père, en 1920, à Beyrouth, a fondé le premier restaurant gastronomique au Liban sous l'enseigne Al Adjami. Mon père a pris la relève. Je suis la troisième génération. Et on est rue François 1er au 58.
Ouais. Et vous allez avoir du monde ce midi.
Et vous allez recevoir d'une minute à l'autre le taboulé
que nous avons
préparé avec, bien sûr, notre fameux hummus et caviar d'aubergine que vous allez pouvoir déguster en l'honneur de votre invité, Ibrahim Malouf, qui est chez vous.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mais il ne faudrait pas résumer la cuisine libanaise, évidemment, uniquement à ce taboulé, à quelques plats classiques qu'on connaît. Il y a aussi quelque chose au Liban qui bouge. Il y a une modernisation de la cuisine. Il y a des jeunes chefs, une jeune génération qui essayent de sortir un peu de ces clichés qu'on peut avoir de la cuisine libanaise.
Alors, exactement, vous savez, la cuisine libanaise, comme la cuisine chinoise comme la cuisine vietnamienne ou japonaise, sont des cuisines traditionnelles. Et dans certaines régions de France, il y a des cuisines traditionnelles. Et bien sûr, il y a des chefs qui essaient d'amener des modernités et des approches un peu différentes culinaires. Donc nous, au restaurant, nous avons amené sur nos ingrédients, on a donc beaucoup d'ingrédients bio, en essayant de revoir aussi les recettes pour que les recettes soient beaucoup plus adaptées au goût actuel, où on recherche vraiment la sensation du goût et non trop des épices qui viennent quelquefois masquer le goût originel. Par exemple, vous allez goûter notre hummus, nous ne mettons pas d'épices ni d'ail, ce que font la plupart des établissements libanais, exprès pour qu'on puisse vraiment goûter la qualité du pois chiche, de la crème de sésame, de l'huile et compagnie. De même pour notre caviar d'aubergine. Donc nous avons un peu modernisé nos recettes pour qu'elles soient plus axées sur le produit et qu'on sente bien la qualité du produit. Et nous, on met beaucoup de produits biologiques là-dessus. On a été invité par Monsieur Drucker il y a quelques années pour parler de nos produits et on était fiers.
Oui, vous avez un sourcing de viande notamment vraiment remarquable.
Fadi, est-ce que vous mettez de l'ail dans le caviar d'aubergine?
Non, nous ne mettons pas de l'ail pour une raison, je vais vous expliquer. C'est que nous faisons notre caviar d'aubergine et notre hummus deux fois par jour.
Ah oui.
Et quand vous le faites deux fois par jour, et avec du citron pressé à la main, et un pois chiche le plus gros possible, et des aubergines de qualité, ça veut dire, pour que l'aubergine doit être de qualité, il faut qu'elle ait le moins de graines à l'intérieur. Ouais. Et donc, nous mettons de l'ail sur commande, lorsque le client le souhaite.
Ah, c'est bien, comme ça, il est frais.
Mais on ne le met pas à l'origine. L'ail est utilisé par des restaurateurs libanais afin de maintenir le houmous. Ils le font pour la semaine ou pour 3-4 jours.
Oui.
On met de l'ail, c'est un exhausteur de goût et un stabilisateur qui permet au houmous d'avoir le même goût sur plusieurs jours.
D'accord. Eh bien, écoutez, Fadi, vraiment, mille merci d'avoir été avec nous ce matin, avec Ibrahim Malouf, Lise Pressac et Olivier Pouls. On a très, très faim, je vous le dis.
Je voulais juste rajouter que l'origine du mot taboulé veut dire assaisonnement, assaisonné.
D'accord. Donc, ah oui, alors on comprend mieux. D'accord.
Voilà. Merci beaucoup, Fadi, infiniment. On ne manquera pas de...
J'espère que ça va être bon. Des personnes qui vous écoutent à la radio vont avoir l'eau à la bouche.
En tout cas, nous,
on l'a. Merci beaucoup. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Il y a un autre chef qui s'appelle Alan Jam, qui est un chef franco-libanais, qui fait une cuisine justement fusion entre ces deux cultures qui sont les siennes, qui est remarquable. Si éventuellement vous êtes de passage à Paris, allez le voir. C'est un très, très grand restaurateur.
Une étoile, hein,
une
on
étoile
est d'accord.
Au guide Michelin. Quelqu'un qui est arrivé en France il y a une quinzaine d'années sans avoir jamais appris la cuisine et qui ne parlait pas français, qui aujourd'hui est un cuisinier de très grand talent.
Ibrahim Malouf, vous avez faim ?
Oui, et je suis en train de penser à un truc, c'est que les restaurants libanais, alors par exemple à Paris, même ailleurs, si vous regardez depuis quand ils existent, si par exemple ça fait genre 5 ans, 10 ans qu'ils sont là, ça veut dire que c'est forcément très très bon. Parce qu'en fait, les Libanais sont tellement exigeants et tellement cassants quand le resto n'est pas bon, que si jamais au bout de deux ans, il n'a pas fait... C'est-à-dire que tous les restos libanais, a priori, qui existent aujourd'hui et qui ont plus que 7-8 ans d'existence, sont forcément des très bons restaurants libanais. Voilà.
Vous voyez, c'est aussi ça, le club de l'été. Même des invités, on vous donne des astuces culinaires. Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1. Les bruits que vous entendez, c'est Olivier Pouls qui est en train de préparer des tapas avec les poivrons que j'ai cuisinés pendant la nuit, comme il me l'a demandé. Nous sommes jusqu'à 11h tous ensemble avec ces deux êtres délicieux que sont Olivier Pouls et Lise Pressac. Et un invité dont la musique est un voyage permanent, le trompettiste Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, est-ce que quand vous êtes en vacances, vous continuez quand même à voyager ou vous dites non, allez, je me pose, je suis à la maison avec les enfants, la famille et j'arrête?
Non, je me pose avec la famille et j'arrête.
C'est vrai, vous ne prenez plus un avion, vous ne bougez plus.
Ou alors je vais dans mon village, quoi, au Liban.
Au Liban, d'accord.
Mais sinon, je ne bouge pas. Ouais.
Vous y retournez souvent au Liban ?
Oui.
Oui.
Ouais, 3-4 fois par an.
Alors, Lise, elle nous propose tous les jours 3 découvertes à partir d'une même thématique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'écouter parce que vous allez commencer à déguster. Lise, on va parler toutes les deux avec les auditeurs, vous inquiétez pas. On va partir visiter 3 églises ce matin et on commence par l'église Saint-Vigor à Ménil-Gondouin. Dans l'Orne.
Oui, c'est un petit village normand de seulement 173 habitants dans lequel se dresse l'église Saint-Vigor. C'est une église peinte et entièrement meublée par l'abbé Victor Paysan. Il fut nommé curé de Ménil-Gondouin en 1873 alors que l'église justement n'était pas encore achevée. Jusqu'en 1921, donc pendant près de 50 ans, il a décoré l'intérieur et l'extérieur de cette église.
C'est lui qui l'a fait.
Exactement, qui fut surnommée donc église vivante et parlante de Ménil-Gondouin. Victor Paysan qui s'était inspiré des églises et des cathédrales recouvertes de fresques représentant des scènes de la vie du Christ qu'il avait pu voir lors de ses nombreux voyages. Il fait ainsi de l'église du village un catéchisme vivant avec la volonté d'expliquer cette religion catholique par l'image. Ce qui ne manqua pas de déplaire au clergé, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Après la mort de Victor Paysan en 1921, le nouvel abbé, sur ordre des autorités ecclésiastiques, fit effacer les peintures et enfouir de nombreuses statues. Mais en 2004, Guy Béchet, le maire de la commune, décide de lever des fonds pour restaurer cette église et la rendre comme dans son état d'origine. Et grâce à la mémoire d'une habitante centenaire, mais surtout grâce à des cartes postales qu'avait réalisées l'abbé Paysan lui-même, qui se mettait en scène devant chaque détail de l'église, on a pu reconstituer cette église de Saint-Vigor à Ménil-Gondouin. Elle est ouverte tous les jours jusqu'au mois d'octobre. Il y a des visites gratuites qui sont proposées le dimanche et les jours fériés de 15h à 18h.
Est-ce que, Ibrahim Malouf, dans vos multiples voyages, quand vous allez pour un concert ou une tournée, vous avez le temps de vous arrêter pour visiter ces pays, ces lieux où vous êtes pris dans le...
Très rarement, honnêtement.
Ça va trop vite, tout ça.
Écoutez, sur la dernière grosse tournée qu'on a faite, c'était pour mon 7e album, on a fait 48 pays.
48
ans. Donc en un an, vous avez très peu le temps, en fait, surtout si vous avez une petite vie de famille.
Mais oui, vous avez une frustration oui. par rapport à ça.
Alors, clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où je me suis dit, je reviendrai un jour, une semaine ou 10 jours. Beaucoup, beaucoup d'endroits.
Et on dit ça à chaque fois. Ouais. Malheureusement, après, il faut trouver le temps pour le faire. On part maintenant à Honfleur, dans le Calvados, pour visiter l'église Sainte-Catherine.
Oui, qui possède une particularité rare. Elle est construite essentiellement en bois. Elle fut construite au XVe siècle par les habitants de la ville avec le bois de la forêt de Touques, tout proche, au même endroit qu'une église en pierre qui avait été détruite pendant la guerre de Cent Ans. Ils ont mis à profit leurs connaissances en construction navale, ce qui explique la forme de cette église en forme de double coque de bateau renversé. Le clocher a été construit en face de l'église, à bonne distance pour éviter les risques d'incendie, puisqu'un clocher, ça attire la foudre. Une construction en chêne édifiée sur la maison du sonneur. Annexe du musée Eugène Boudin, le clocher présente des œuvres religieuses et cette église Sainte-Catherine est ouverte à la visite tous les jours gratuitement.
Je peux poser juste une question à Olivier Poul, s'il se présente. Que vous
m'autorisez. Si c'est bon. Les poivrons sont bons.
Alors les poivrons sont validés, hein. Ils sont très très bons.
D'accord. Okay. Ouf, alors on peut terminer.
Voilà bien.
Voilà. Allez, enfin on termine une troisième église, mais cette fois-ci sous terre, en Charente.
Oui, à Auptère-sur-Drône, c'est au sud de la Charente, à 50 km d'Angoulême. Pour visiter cette église souterraine,
j'avais
Saint-Jean.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Mais elle a été creusée au XIIe siècle, à même la falaise de calcaire qui surplombe le village. Elle mesure 27 mètres de long, 16 mètres de large et 20 mètres de haut. Des dimensions qui font d'elle l'un des plus vastes édifices religieux troglodytes d'Europe. L'église renferme un reliquaire hexagonal haut de 6 mètres. Est taillée d'un seul bloc de pierre et dont la forme s'inspire de celle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Cette église souterraine Saint-Jean a été un haut lieu de pèlerinage, notamment pour les marcheurs des chemins de Compostelle. L'été, l'église est ouverte de 9h30 à 19h. Ça coûte 6 euros pour les adultes, 2 euros pour les 8-12 ans et c'est gratuit jusqu'à 7 ans.
Vous avez déjà joué dans un édifice religieux ?
Ah oui,
ouais, régulièrement.
Régulièrement,
c'est vrai.
La trompette sonne très très bien dans les édifices religieux. Et il y a plein de créations, plein de choses qui se sont faites.
Et vous ressentez quelque chose de particulier ?
Ah, j'adore.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'adore. J'ai même l'impression que c'est fait pour ça, en fait.
Oui.
Que cet instrument a été fait pour les églises, pour les cathédrales, pour les églises. Voilà.
Alors, on avait prévu de vous passer justement un extrait de Maurice André, qui est un très grand trompettiste qui nous a quittés il y a très peu de temps, en 2012, si ma mémoire est bonne, que votre papa a connu,
et moi aussi,
que vous avez connu.
J'ai pris même des cours avec lui. Mon père était élève avec lui au Conservatoire de Paris. Moi, j'ai pris quelques cours avec lui.
Et je crois même que vous pensiez que c'était votre grand-père, parce qu'il y avait
Exactement.
Une photo de lui qui traînait à la maison, c'est ça ?
Plusieurs photos de lui à la maison, et j'ai toujours cru que c'était mon grand-père, c'est ça.
Et il a joué dans des églises aussi. Et on avait prévu de vous passer un extrait de L'Ave Maria, je ne sais pas si on l'a. On va l'écouter tout à l'heure parce que le morceau est absolument sublime. Ouais. Pour finir votre séquence, Lise. Ah bah voilà.
C'est sublime.
Je pense que c'est grâce à des musiciens comme lui et comme vous, Ibrahim Malouf, qu'on a un peu désacralisé la trompette et qu'on l'a vu sous un autre angle aussi, hein, comme un instrument moderne, à la fois classique dans sa sonorité et capable de tout jouer. Et puis, avec cette formidable ouverture vers de nouvelles musiques, plus urbaines aussi. Hein. Mais je pense que c'est grâce à des gens comme vous et
mais
comme Maurice André.
Je veux bien corriger quelque chose. Merci de dire ça, parce que ça me touche beaucoup. Mais moi, je ne dirais pas désacralisé, je dirais dévulgariser.
Oui,
en fait,
tout à fait.
Au contraire, la trompette était un instrument qu'on sous-considérait.
Vous
en
avez
fait.
Raison.
Ouais,
c'est
un
vrai.
Truc de fanfare.
Ouais. Un truc de fanfare et tout. Et au contraire, c'est grâce
on
à Maurice André qu'on lui a donné un peu
c'est
plus
vrai.
De. Voilà.
Tout à fait, c'est vrai, c'est exact. Pour l'appli du jour, Lise, vous avez pensé à nos estomacs. C'est vrai
qu'on n'y pense jamais.
On n'y pense jamais.
Oui, quand on voyage, le plus difficile, c'est pas de trouver quoi visiter, mais dans quel restaurant manger. Eh bien, je vous propose d'aller manger chez l'habitant grâce à l'application Eatweave. Donc, manger
c'est drôle,
avec.
Ça. Ouais. J'aimerais bien le faire.
Bah, en fait, vous pouvez.
On peut aller manger chez Eva ?
Bah oui, je pense qu'il faut qu'elle s'inscrive sur le site. L'appli vous propose une liste d'hôtes prêts à vous accueillir chez eux pour partager un repas partout dans le monde.
C'est drôle.
Alors j'ai cherché, il n'y a pas d'adresse à Beyrouth malheureusement, mais je nous ai trouvé une dispo chez Meltem à Istanbul pour un repas turc traditionnel avec vue sur le Bosphore à 36 euros. Alors c'est le seul hic, c'est pas gratuit, mais pour l'expérience culinaire, ça peut être une bonne alternative au restaurant classique.
Ah, je trouve ça génial. Ah oui. Ça s'appelle Eatweave. Voilà, exactement. Merci beaucoup Lise Pressac. On attend aussi vos cartes postales papier ou numérique si vous avez envie de nous dire où vous êtes et comment se passent vos vacances. Ibrahim Alouf, dans quelques secondes, ce sera la dernière séquence de cette émission avec Olivier Pouls, mais je ne pouvais pas envisager de ne pas écouter un titre de votre album Dalida. Bye, bye Ibrahim Alouf et cette reprise de Parole et Parole par M et Monica Bellucci sur Europe 1.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau.
Toi d'hier et de demain.
Bien trop beau.
T'es toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme les vents qui fait chanter les violons et importe loin les parfums des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
T'es parlé comme la première
encore
fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sont faux.
Tu es mon rêve et défendu.
Oui, tellement faux.
Seul tourment est mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci. Pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Et Monica Bellucci pour une reprise de Paroles et Paroles sur votre album Imre et Malouf sorti en 2017. On se retrouve dans quelques secondes pour une ultime séquence.
Le club de l'été sur Europe 1,
9h, 11h,
Eva Rock.
Ce numéro du Club de l'été s'apprête à refermer ses portes. Ibrahim Malouf, on termine toujours en laissant la parole à Olivier Pouls. Il est belge, hein, il faut bien l'aider. Il faut dire qu'entre-temps, dans le studio est arrivé mais plein de nourriture libanaise absolument extraordinaire. On va vous faire des photos pour vous envoyer ça et vous donner l'eau à la bouche. Je sais, c'est pas très sympa. Olivier, hier, on parlait du sel comme exhausteur de goût, en l'occurrence, non ? Vous nous avez expliqué pourquoi. Et vous vouliez revenir sur cette histoire de goût.
Oui, et notamment cette fameuse théorie qu'on nous a appris, y compris à l'école, hein, qui aurait quatre saveurs qui détermineraient notre goût, l'amer, l'acide, le sucré, le salé, et notamment des capteurs sur les langues, sur la langue située à différents endroits, et que voilà, ce serait de cette manière-là qu'on dégusterait les choses. Alors, je me suis intéressé au sujet, j'ai découvert... il y a quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Hervé Tis, qui est un grand chimiste qui s'est beaucoup intéressé à la gastronomie et qui sur son blog vient de publier un papier que j'ai trouvé fantastique sur justement l'idée de ces quatre saveurs, de ces fausses quatre saveurs. Et je n'ai pas résisté au plaisir d'appeler Hervé Tis. Bonjour.
Bonjour Hervé Tis, bonjour, merci d'être avec nous.
Et voilà, vous enfoncez une porte ouverte et vous avez raison parce qu'il faut en finir avec cette théorie. Non, il n'y a pas quatre saveurs dans notre façon de déguster les choses.
Oui, le plus simple, c'est quand même de faire une expérience. Et une expérience, elle peut se faire en cuisine. Alors, si vous avez du bicarbonate, vous savez, vous en prenez un tout petit peu, vous le goûtez, il n'est pas salé, pas sucré, pas acide, pas amer, donc ça fait une cinquième. Si vous avez plus de l'âge légal, vous prenez une cuillerée de vodka. La vodka, c'est de l'éthanol et de l'eau, hein, donc l'eau n'a pas de saveur. L'éthanol en a, et vous allez goûter ça. Pincez-vous le nez, parce que si on ne se pince pas le nez, en plus, on a l'odeur en plus de la saveur. Mais si vous pincez le nez, vous mettez une cuillerée de vodka dans la bouche, vous allez voir, c'est pas salé, pas sucré, pas acide, pas amer, pas bicarbonate, ça en fait une sixième. Et puis si vous prenez de la réglisse, vous en aurez une septième, et puis etc., etc., etc. Et alors, on sait depuis à peu près, je sais pas, les 30 ans que cette théorie est fausse. Comme les cartes de la langue, qui sont quand même enseignées dans certains clubs de dégustation de vin, donc c'est pas vrai qu'on reconnaît le sucré avec la pointe, les bords. Enfin, tout ça, c'est du baratin et c'est quasi médiéval, quoi. C'est comme si on disait il y a quatre couleurs. Il n'y a pas quatre couleurs, il y en a un nombre infini. Vous voyez, c'est intéressant de voir. Alors, c'est très passionnant parce qu'on voit qu'on peut apprendre à déguster mieux. Donc ça, moi, je suis toujours très positif.
Oui, et puis je vais vous dire, l'idée m'est venue, c'est que je suis tombé sur un livre de cuisine pour les enfants dont on a parlé dans cette émission même il y a deux jours, et dans les trois premières pages, il y a quatre saveurs, l'amer, le sucré, le salé, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Vous avez raison, il faut, une fois encore, expliquer aux gens que ce n'est pas exact. Et je vous remercie pour tout le travail que vous faites, que ce soit autour du goût, là, mais autour de la manière dont la cuisine doit être comprise d'une manière scientifique. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses de manière automatique parce qu'on l'a appris, on reproduit des choses qui, scientifiquement, n'ont aucun sens.
Oui, alors ça vous me donnez l'occasion de dénoncer certains médias pourris qui disent que je suis le faux nez de l'industrie chimique, ce qui n'est pas vrai parce que je roule pour personne, moi je roule pour la connaissance et la vérité. Je suis agent de l'État, je travaille à l'INRA. L'INRA, c'est une institution merveilleuse au service des citoyens. Donc la gastronomie moléculaire, ce n'est pas de la cuisine élaborée pour riches, etc. C'est l'étude scientifique de la cuisine. Dans nos séminaires, qui sont publics et gratuits depuis 20 ans, tous les troisièmes lundis du mois, on se réunit. On prend un dicton culinaire et puis on le teste expérimentalement avec des cuisiniers professionnels, etc. Venez, c'est passionnant. Alors, on voit des trucs marrants. Par exemple, on a fait gonfler des soufflés sans battre les blancs en neige.
Eh oui.
Ou bien on a... alors, sur les artichauts, par exemple, on vous dit, les artichauts, il faut toujours arracher la queue, jamais la couper, sinon ça devient amer. On a fait la manip, ça ne devient pas amer. Alors, c'est la période des fraises. On vous dit surtout ne jamais laver les fraises. Alors, on a pris les fraises, on les a coupées en deux. La moitié était lavée, l'autre moitié n'était pas lavée. Puis, on n'a pas vu de différence. Alors, vous voyez, on fait ça depuis 20 ans et il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'est très passionnant et ça prouve bien qu'on n'est pas en train de mettre de la chimie dans les aliments. Ce n'est pas ça la question.
Non, c'est
la question, c'est d'avoir des citoyens éclairés qui cuisinent de mieux en mieux. Et quand on cuisine de mieux en mieux, on mange de mieux en mieux, ce qui est le bonheur dans la vie.
Ouais, et merci pour votre sourire aussi, pour les explications et pour votre sourire, Henri Thys. Vous êtes passionnant.
Et je vous renvoie aux nombreux livres passionnants que Hervé Thys a écrits sur cette compréhension justement pour arrêter cuisiner.
Si je peux me permettre, à propos de sourire, le meilleur s'appelle Le terroir à toutes les sauces parce que c'est un traité de la mauvaise foi en quelque sorte transformé en livre de cuisine. Vous savez, quand je dis j'aime, bon bah j'aime et alors. Mais quand je dis j'aime pas, bah ça n'a pas valeur universelle. Alors ce livre raconte ça avec des recettes de cuisine alsacienne traditionnelle modernisée, ce qui est quand même un comble.
Merci beaucoup Hervé Thys, on était très heureux de vous entendre ce matin. On va remercier le restaurant El Ajami qui nous a amené toute cette nourriture qui est dans le studio et qui nous donne très envie de déguster, ce qu'on va faire avec tous les gens de la rédaction. Merci infiniment Ibrahim Malouf.
Moi je vais vous remercier pour vos magnifiques poivrons.
Merci Olivier, je donnerai la recette demain.
C'est trop bon.
Ibrahim Malouf, merci d'avoir passé ces deux heures avec nous, d'avoir pris du temps pour les auditeurs d'Europe 1. Votre album Sens est à découvrir le 27 septembre, j'espère qu'on aura la chance d'en reparler. Les trois dates à l'Olympia en septembre sont déjà complètes, mais vous partez en tournée. Toutes les dates sont sur votre site internet et sur europe1.fr. Et puis vous serez à la scène musicale les 14 et 15 décembre avec votre projet Kaltoum, en hommage à Kaltoum, l'immense chanteuse égyptienne. Merci infiniment,
merci de
Ibrahim.
Votre invitation, merci de votre générosité.
L'Espresso avec Olivier Pousse, on se retrouve demain même lieu, même heure avec un autre invité qui a déjà chanté, mais avec lui on va parler plutôt théâtre et cinéma. On aura la joie de recevoir Vincent Dodienne. Je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.